Bonsoir, excusez-moi de mon retard. Nous sommes à la page Tzadik He Amud Bet. Dirtiv, c'est tout à fait en haut. Dirtiv, Vayetse Yaakov Miber Shava. Vayelech Harana. Nous en étions tout à fait incidemment, nous avons parlé au passage d'une agada concernant la famille du roi David. Nous avons parlé également de ce qu'on appelle la Kritat Aderer, c'est-à-dire le saut miraculeux. C'est-à-dire il y a des hommes qui ont eu dans l'histoire l'expérience de ce qu'on appelle Kritat Aderer. Kritat Aderer, ça veut dire que la route a été plus rapide que prévu. C'est quoi ça? Ben, oui. Plus rapide que prévu, c'est présenté par la Guémara comme étant... avoir parcouru toute la distance en un jour. N'est-ce pas? Alors, on parle de trois personnages de ce genre. L'un, c'est Avishai, le neveu de David qui est venu l'aider pour sauver la royauté d'Israël. Et puis, il y a eu également Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui a également sauté, c'est-à-dire il a eu son miracle pour permettre l'existence même du peuple juif. Puisque c'est grâce à lui que Rivka est devenue la femme d'Israël. Et puis le troisième cas, c'est il y a des sauts quand il s'agit de sauver le peuple juif, c'est le départ de Yaakov pour Haran. Quand il s'enfuit de chez son frère, on dit Vayetse Yaakov, c'est le troisième cas, celui que nous avons dans les yeux, Vayetse Yaakov Iber Shava, Vayele Haran. Urti Vayiga Bamakom Vayelen Sham, c'est-à-dire Yaakov est sorti de Be'er Sheva, est arrivé à Haran. Et il est écrit, il rencontra l'endroit. L'endroit étant Beth-El, là où il a prié, où il a vu l'échelle dans son rêve. Vayel Sham qui va à Shemesh, car le soleil s'était couché. Qui mata les Haran, on explique que lorsqu'il est arrivé jusqu'à Haran, Amar, il s'est dit Efshar avarti al makom, shit palelubo avotai vanil ot palal tibo. Est-il possible que je sois passé à côté d'un endroit où mes ancêtres ont prié, c'est-à-dire Abraham et Yitzhak ont prié? Et moi, je n'ai pas prié. Ba'ed et Mehedar. Il a pensé revenir en arrière. Kevan dit Reher Bedarate et Mehedar, Kaftale Ara. Puisqu'il a pensé revenir, la terre a sauté pour lui. Miyad va'ifga ba'makom. Et c'est alors qu'il sait qu'immédiatement, il a rencontré le lieu. D'Avaracher, autre explication. En Pegia et la Tefila. Le mot Pegia à rencontrer veut dire la prière. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit. C'est Dieu qui dit à Jérémie, ne prie pas en faveur de ce peuple. Et là-bas, l'expression, c'est ne me rencontre pas. Et donc, il y a ici quelque chose de miraculeux qui permet à Yaakov de rencontrer le lieu de prière de ses ancêtres. Le lieu de prière de ses ancêtres, on a dit, c'est Beth-El. Mais d'après la Gemara, il s'agit du Har HaMoria, là où se trouve le temple. Et le lieu du temple est un lieu où les limites habituelles de l'espace n'ont pas cours. C'est-à-dire d'habitude, quand on est dans un certain espace, eh bien, il y a des limites imposées par l'espace, mais le lieu du Beth Amikdash est un lieu particulier. C'est un lieu où les limites habituelles du lieu n'ont pas cours. C'est la raison pour laquelle il peut sauter le chemin. Vayal Encham qui bat à Shemesh, il dormit là-bas parce que le soleil s'était couché. Alors c'est quoi le soleil s'était couché? Batard et Tzale Ba'el et Mehada, après qu'il ait prié, il voulait repartir. Amar Akadosh Baruch Hu, et le Saint Béni soit-il a dit, Tzadik Ze Ba'el Bet Meloni Yipater Belolina, comment ce juste est venu dans mon auberge, il partira sans passer la nuit, Miyad Ba'a Shemesh, et c'est pour ça que le soleil s'est couché tout de suite. C'est-à-dire que le soleil... lui aussi a eu un saut, une kvitat aderer, il s'est couché tout de suite. Ve'aynu dirtiv, c'est pour ça qu'il est dit, va'yizrahlo ha-shemesh, et le soleil luisa pour lui. Ve'chi lo bilvad zarha, est-ce que c'est pour lui seulement que le soleil a brillé? Et là, va'lo lechola olam kulo zarha, alors le soleil brille pour le monde entier. Et là, Amar Rabbi Yitzhak dit, Shemesh Sheba Ba'avuro, Zarha Ba'avuro. C'est-à-dire que le soleil qui s'était couché pour lui, eh bien, s'est mis à briller pour lui. De quoi s'agit-il? Lors du retour de Yaakov en Eretz Israël, il a une lutte avec l'ange tutélaire de Esav. Il le gagne, il le vainc. Et le lendemain matin, on nous dit « Vaizrach lo Hashemesh » et le soleil brilla pour lui. Ça veut donc dire que le même soleil qui s'était couché plus tôt pour lui, maintenant se lève plus tôt en sa faveur. C'est-à-dire qu'on a fait un rattrapage du décalage horaire. Et ça veut donc dire que le soleil représente, shalom, représente la, si vous voulez, l'écart qu'il y a, ça représente le temps où Yaakov est en dehors des Eretz Israël. C'est quoi le soleil en question? Il y a ici une sorte de mystère qui se cache. C'est quoi le soleil qui se couche lorsque Yaakov part en galoute et qui brille pour Yaakov lorsqu'il revient de galoute? Bon, alors on peut dire tout simplement, la galoute, c'est la nuit, c'est l'obscurité. Et donc, il y a un moment de l'histoire où il fait noir et un moment de l'histoire où il fait jour. Eh bien, pour nous, le moment où il fait noir, c'est la galoute, il fait jour quand nous revenons en Eretz Israël. C'est très vrai, mais je pense qu'il y a encore autre chose. Le mot, l'expression employée par la Torah pour dire le soleil s'est couché, c'est comment? Ba Hashemesh. C'est pas? Ba Hashemesh. Littéralement, le soleil est venu. C'est un drôle de nom, ça, pour coucher de soleil. Aujourd'hui, en hébreu moderne, pour dire le coucher du soleil, on dit. Comment on dit en hébreu? Hein? Shkia tachama, c'est-à-dire l'abaissement du soleil, n'est-ce pas? Le soleil plonge dans l'horizon. Mais l'expression biblique, c'est Ba Hashemesh, le soleil est venu. Hein? Ça ne tient pas debout. Ça veut dire quoi que le soleil est venu? Ça veut dire que pendant le temps de la nuit, il y a un autre soleil qui brille. Si on prend ça très sérieusement. C'est-à-dire, au moment du coucher du soleil, arrive le soleil. C'est-à-dire, il y a un autre soleil qui brille pendant que pour nous, c'est la nuit. Est-ce que c'est la lune? C'est ce que disait Roland Bacri, que deux choses, l'une, l'autre, c'est le soleil. Mais je ne crois pas que c'est ça dont il s'agit. Je pense qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait différent. Il y a des civilisations de type solaire et des civilisations de type lunaire. Les civilisations de type solaire, eh bien, ce sont les civilisations conquérantes, dominantes. Exemple de cela, l'Occident. L'Occident, très rapidement, a pris conscience, une fois qu'il était constitué, qu'il avait pour finalité de conquérir le monde. Et c'est pas pour rien qu'un des grands rois de la civilisation occidentale se nommait le roi Soleil. Se faisait appeler le roi Soleil parce qu'il avait cette idée qu'il dominait le monde, qu'il était là pour rayonner sur l'ensemble de l'humanité. C'est ça donc le roi Soleil. Il en est de même, par exemple, pour Rome. Le Maharal de Prague, dans Netzach Israël, explique que Rome agit dans le monde à la manière du soleil. C'est pour ça, d'ailleurs, que la couleur de Edom, c'est le rouge. Parce que le rouge, c'est la couleur du soleil. Et c'est ce qui chauffe, qui brûle. Tandis qu'il y a des civilisations qui adoptent une position de passivité par rapport à l'histoire, l'exemple le plus commun de nos jours, c'est l'islam. C'est-à-dire, jusqu'à son éveil au temps moderne, l'islam a été une civilisation dominée, ou en tout cas qui, même par rapport à la divinité, développe une sorte de passivité, de soumission. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot islam, la soumission. Et dans les familles humaines dont la Torah parle au livre de Bereshit, on voit qu'il y a des familles solaires et des familles lunaires. C'est très facile à reconnaître. Vous savez comment? Au nombre d'enfants. Il y a des familles dont la Torah nous dit ils avaient 12 garçons et une fille. Eh bien, on sait que c'est une civilisation lunaire. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? 12 garçons et une fille. Oui, par exemple, le cas des descendants de Yoktan. C'est-à-dire l'ancêtre de tous les Hébreux s'appelait Ever. N'est-ce pas? Ever avait deux enfants. Un Peleg et l'autre Yoktan. N'est-ce pas? 94. Et ce Yoktan avait. Non, je me suis trompé. Yoktan avait 13 enfants qui sont mentionnés dans la paracha de Noar. Et il y en a là-bas 12 garçons et une fille qui s'appelle Dikla. Et de même, il y a chez Kenaan. Kenaan, le fils de Ham, il a également 12 tribus qui sortent de lui. Sidon, Chet, Chiti, Emori, Perizi, etc. Il y en a 12. Et il en est de même dans la... chez Ishmaël. Ishmaël, qui est le fils de la servante, eh bien, il a 12 tribus qui sortent de lui, qui sont mentionnées dans Parashat Ha'esara, et une fille qui s'appelle Basemat ou Mahlat, c'est la tribu féminine. N'est-ce pas? De même, chez Nahor, la branche parallèle à celle d'Abraham, chez le fils de Terah, Nahor, eh bien, il y a là-bas 12 garçons. D'ailleurs, c'est très précis, il y en a 8 de la femme légitime et 4 de la concubine. Et il y a également une fille, qui est en fait une petite fille, c'est Rivka. Tout ça, c'est mentionné dans la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les branches des familles humaines qui n'ont pas pris la responsabilité de l'histoire, on voit se développer un type de civilisation lunaire. Pourquoi 12 garçons et une fille? Parce qu'il y a 12 constellations et qu'il y a également 12 mois dans l'année et parfois un 13e, pour rattraper l'écart entre le soleil et la lune. Et ce sont des familles, si l'on veut, on appellerait ça en termes socio-économiques, prolétariennes. C'est-à-dire, elles ont beaucoup d'enfants, elles travaillent beaucoup sur la quantité, mais ce n'est pas l'aristocratie qualitative, qui, elle, en général, a un ou deux enfants et un chien. N'est-ce pas? Par exemple, on n'a qu'à voir ça dans la famille du même Éver, le frère de Yoktan, lui, s'appelle Peleg. Et ce Peleg a un fils, il s'appelle Réon. Et c'est de ce Réou, Sérou, etc., que va naître finalement Israël, va naître Terah, le père d'Abraham. De même, Abraham, lui, appartient à la branche solaire. Alors que son frère Nahor appartient à la branche lunaire, lui, il appartient à la branche solaire. Il a finalement deux enfants, Yitzhak et Ishmaël. Et, comment? Il y en a d'autres après, mais ça ne compte pas. Et puis, il y a également, chez Ishmaël, 12 enfants, mais Yitzhak, lui, n'en a que deux, Yaakov et Esav. Oui. Ah, je crois effectivement que Yaakov a eu 13 enfants, 12 garçons et une fille. Et donc ça le met dans la branche latérale, celle qui est évacuée de l'histoire. Et celui qui domine, c'est Esav, qui a très peu d'enfants, et qui en a 5 en tout, alors qu'il avait 3 femmes. Donc c'est pas très fécond dans la famille. Et ça veut dire qu'il appartient à l'aristocratie dominante de l'histoire. C'est donc Esav qui est le soleil et Yaakov qui est la lune. D'ailleurs, la Guémara le dit très clairement, les goïms comptent leur temps selon le soleil et Israël selon la lune. D'accord? Donc c'est nous qui sommes dans les marges de l'histoire et c'est Esav qui domine. Et c'est effectivement ce qui est dit dans la Torah. Vayal en sham ki ba Hashemesh. Au moment où Yaakov part en exil, c'est le moment où le soleil va venir. Le soleil, c'est Esav. Oui? Ah justement, on va y arriver. C'est très gênant ce que je dis là, parce que ça nous met à côté. Or, on n'aime pas ça, nous sommes le peuple central de l'histoire, donc c'est nous qui dominons, c'est nous le soleil. Nous avons le soleil et la lune. Mais depuis quand est-ce que nous avons le soleil et la lune? Depuis la lutte contre l'ange. C'est-à-dire, quand Yaakov va faire l'effort de se surmonter et qu'il va terrasser l'ange de Esav, il lui dit, je ne te laisse pas partir si tu ne me bénis pas. Et donc, l'ange le bénit, malgré lui, et donc Yaakov devient Israël. Ça veut dire quoi, Israël? Eh bien, il devient un composé, un mix de Yaakov et de Esav. À partir de ce moment, le soleil lui appartient. Et c'est ça qui est dit, Vaizrach lo Hashemesh, le soleil maintenant brille pour lui. Jusqu'à présent, il brillait pour Esaü, et bien maintenant, le soleil brille pour Yaakov. D'accord? Et donc Yaakov, à partir de ce moment-là, devient l'unisolaire. Il a à la fois, merci beaucoup, le soleil et la lune dans son calendrier. Il a un calendrier lunisolaire. D'accord? Vous comprenez tout le topo? Et ça explique d'ailleurs ce qui se passe dans le rêve de Yosef. Dans le rêve de Yosef, il y a quelque chose d'extrêmement surprenant. Il voit le soleil et la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Alors son père lui dit, mais ça va pas la tête, c'est impossible. Ta mère est morte. Comment? Moi et ta mère et tes frères, nous viendrions se prosterner devant toi. Quelle est la difficulté? La difficulté, c'est qu'effectivement, la mère de Yosef était morte, c'était Rachel, elle était morte depuis longtemps. Donc, comment, ce que veut dire Yaakov, ton rêve est absurde. Ça ne tient pas debout. Et pourtant, la Torah rajoute « Vaikanubo Echa ve'aviv shamar et adavar ». Ses frères le jalousèrent et son père garda la chose. Ça veut dire quoi? Il a gardé la chose. Rashi dit « Il attendait la réalisation du rêve ». Il attendait que ça se réalise. Ah, ça veut donc dire que Yaakov savait très bien que son objection n'en était pas une. Il savait très bien que quand il disait à Yosef « Ton rêve ne tient pas debout parce que ta mère est morte », il savait très bien que ce n'était pas la vraie interprétation du rêve. Alors c'est quoi le soleil et la lune? Eh bien c'est Yaakov lui-même. C'est-à-dire Yaakov est à la fois soleil et lune, et ses enfants sont les étoiles. D'accord? Et donc, ça c'est vrai depuis que Yaakov s'est transformé pour devenir Yosef. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a une donnée de départ, un handicap naturel de prime abord avec lequel nous commençons l'histoire, nous sommes lunaires. Mais nous faisons l'effort de devenir solaires, c'est-à-dire de s'introduire dans la politique. Ce qui explique d'ailleurs la difficulté que nous avons dans l'histoire à admettre le politique comme étant une dimension légitime de l'être d'Israël. Oui. Oui. Oui, c'est pour essayer de rattraper le soleil. Oui, non, mais on a besoin d'un. Oui, mais c'est parce que il y a un élément d'extérieur qui vient. La fille, elle va se marier avec quelqu'un d'extérieur pour fonder la 13e tribu. Non, bien sûr. Oui, tous ces gens-là. Oui, d'accord. Non, ils n'ont pas toujours réussi. Le solaire ne vient pas de la fille.
Non, vous avez dit que la fille correspondait au 13e mois.
Au 13e mois, c'est-à-dire la nécessité qu'a le lunaire de se rattacher au solaire.
Donc c'est une structure qui est lunaire et solaire, non ?
Oui, mais c'est fondamentalement lunaire. C'est-à-dire c'est l'année lunaire qui a besoin de rattraper le soleil. Le soleil, il a besoin de rien rattraper. Les musulmans ont décidé d'être carrément en dehors de l'histoire. Ils ont l'année uniquement solaire. Lunaire, oui, c'est ça. Ils sont comme la lune. C'est-à-dire passif. Ouais. Et donc, comment? Hein? Ils ont fait des conquêtes, c'est vrai. Ils ont fait des conquêtes dans le premier siècle de leur histoire. Et puis après, ils ont arrêté. C'est-à-dire, pendant 100 ans, ça a marché. Puis après, ça s'est arrêté. Comme disait d'ailleurs dans une copie du baccalauréat en France, il y a un élève qui a écrit « Charles Martel a arrêté les Arabes à moitié ». Exactement. Comment ?
Depuis, ça a été supprimé
l'histoire. Oui ? Ah bah évidemment, c'est plus actuel. Non, c'est simplement faux. Il ne les a pas arrêtés. Bon. Ouais. Où est-ce qu'on était? Ah oui, donc c'est ça. Oui, ce que je veux dire, l'objection est tout à fait vraie. C'est-à-dire, il y a une nécessité pour le lunaire de se rattacher au solaire. D'ailleurs, par exemple, quand on parle de la 13e tribu chez Yaakov, qui c'est qui vient enrichir Israël d'une 13e tribu? Ça aurait dû être Esav. Les Chachamim nous ont dit que Yaakov aurait dû marier sa fille à Esav, ou bien un descendant de Esav. C'est-à-dire que c'est Esav, l'élément solaire, qui aurait dû compléter Israël. Finalement, ça ne s'est pas fait, ça a été Shrem, ça a été une catastrophe. Et puis, il a fallu, par des mouvements détournés, que Yosef, finalement, épouse la fille de Dina, pour donner une 13e tribu, Ménaché et Ephraïm. Enfin, un truc compliqué. Ça n'a pas marché à ce moment-là. Qu'est-ce qui donne la 13e tribu à Nahor? Eh bien, c'est Yitzhak, justement, qui vient, qui prend Rivka, et qui va féconder la famille de Nahor, pour donner naissance à Israël. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, de la 13e fille de Peleg, de Yoktan? J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. La fille de Ishmaël, par exemple, Bosmat, a été épousée par Esav, justement. Oui. Il y a une tentative de compléter. Et après, je parlais de tout ça. Ah oui, à cause du soleil. Là, voilà, c'est ça, le soleil. Ou Minalan. Alors, justement, bon, maintenant, la Guémara complète ce que nous avons commencé la dernière fois. La tendance de la famille de David à être décimée. Ou Minalan des Kalazaré de David. D'où savons-nous que la descendance de David a été décimée? Ça, c'est la suite de la Haggadah que nous avons commencé il y a 3 semaines. qui concernait la punition de David à cause de la ville de Nov. Sa punition a été... Vas-y. Ah, une feuille, excuse-moi, je suis profondément... Ah non, elles sont toutes distribuées. Voilà. Cigerion. Bon. Oui. Donc, la Guémara, dans ce qu'on a vu il y a 3 semaines, puisqu'on a vu Yom Yerushalayim, et puis Yom, et on a eu Shavuot, etc., donc on n'a pas pu étudier ensemble, il s'agit de la punition de David à cause du massacre des Kohanim de Nov, dont il a été indirectement la cause, et sa punition a été que sa descendance a été décimée. Alors la Guémara demande quand est-ce que ça s'est passé. Eh bien, ça s'est passé du temps de Athaliah. C'est une femme qui a voulu prendre racine en Israël, ce qui a donné la fameuse pièce de racine Athaliah. Ve'Athaliah et Mahaziahu, Ra'ata Kimet Bena, lorsque Athaliah, la mère d'Ahaziahu, a vu que son fils était mort, Vatakom Vateabed et Kolzera Mamlacha, elle se leva et fit disparaître toute la descendance royale. Ve'a Ishtayar le Yoash. Alors comment tu dis que la descendance de David a été décimée? Il en est resté quand même un, Yoash. C'est-à-dire qu'il y a comme un élément de Ségoula dans la famille royale. On ne peut pas donc supprimer la Ségoula royale. Et la réponse de Gemara, Ishtayar, il y avait une vanne d'ailleurs, Atam Name Ishtayar et Eviatar, mais c'est parce que chez les Kohanim de Nov, il en est resté un. C'était Eviatar qui est devenu grand prêtre. Dirtiv, et ainsi qu'il est dit, Vaimalet ben Echad l'Achimelech ben Achitou, Vushmo Eviatar, un fils resta en vie chez Achimelech, fils d'Achitou, du nom d'Eviatar. C'est-à-dire, de même qu'on ne peut pas détruire totalement la famille des Kohanim, on ne peut pas détruire totalement la famille de David. Amar Rav Yehuda Amar Rav, et on disait donc, Ilmale Nishtayer Eviatar l'Achimelech ben Achitou, si il n'était pas resté Eviatar, fils d'Achimelech, fils d'Achitouv, l'onishtayer mizaroch et de David tsaridou palit. Aucun résidu ne serait resté de la famille de David. Voilà, tout ça c'était une parenthèse. C'est une très grande parenthèse parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à fait au début de la page d'avant, on parlait de Sanhériv. On parlait de Sanhériv. Et puis pour des tas de raisons, on a commencé à parler d'autre chose. Et puis on revient à l'histoire de Sanhériv. Sanhériv est donc l'adversaire d'Israël qui vient au nom de la force brutale. C'est un puissant impérialiste, il vient au nom de la force brutale. Amar Rav Yehuda Amar Rav Ba'alehem Sanhériv Arasha. Alors là on reprend, donc Rav Yehuda au nom de Rav disait que Sanhériv le méchant est venu faire la guerre Be'arbaim Ve'chamisha Elef Ish Bene Melachim avec 45 000 fils de rois. C'est quoi des fils de rois? Quoi, il y avait 45 000 rois sur terre. Même en admettant que plusieurs sont fils du même roi, c'est difficile à admettre qu'il y ait eu comme ça 45 000 princes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des bourgeois, des fils à papa. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, à la guerre, partent les enfants gâtés des impérialistes. Alors, ils y vont, mais alors ils y vont en bonne condition. Yoshvi Mikronot Shel Zahav, installés dans des camions, dans des charrettes en or. Ve'aimahem, et avec eux, shiglonot vezonot, et avec eux, des prostituées. C'est-à-dire l'internet et tout le reste. Uvishmonim elef giborim, levouché shirion klipa, entouré de 80 000 héros revêtus de cottes de maille. Uvishishim elef achuzer herev ratim lefanav, et avec 60 000 porteurs de glaives qui couraient devant eux, Ve'ashar Parashim, et le reste, ce sont des cavaliers. Donc ça fait beaucoup de monde tout ça, n'est-ce pas? Ça fait 185 000. Effectivement, c'est le texte de la Torah qui parle des 185 000 victimes. Pourquoi 45 000 fils à papa? Eh bien parce que 45, c'est la gématria du mot. Adam, c'est 45, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est la force de Sanhériv, c'est la force humaine. Il ne croit pas en Dieu, en tout cas il se sert du discours religieux pour des raisons politiques, mais en fait il n'y croit pas. Et donc il vient au nom de l'homme, 45 000. D'accord, un multiple de 45. D'accord, c'est quoi 80 000 porteurs de côtes de maille? Eh bien 80, c'est le chiffre de la puissance. On avait vu que 8 représente toujours ce qui est plus fort que la nature. Et pourquoi 60 000 porteurs de glaive? 60, ça représente toujours la multiplicité. Enseignement du Maharal, parce que c'est dans toutes les 6 dimensions. Multiplié par 10, qui est le chiffre maximal, ça fait 60. Et donc un multiple de 60, c'est toujours la plus grande multiplicité. Et le reste, des cavaliers. Vechen baou al Avraham. Et autant sont venus faire la guerre à Avraham, lors de la guerre contre les 4 rois de Mésopotamie. Vechen atidim lavo im Gog ou Magog. Et il y en aura autant qui viendront avec Gog et Magog. Bon, alors jusque-là, c'est très bien, on nous a dit qui sont les chefs de l'armée. Mais combien il y en avait en tout? Bematnitatana, dans la Braïta, on nous enseigne Orech Mahaneu Arba Meot Parse. La largeur du camp de Sanhérive était de 400 parsaot. Dans les traductions en français, on dit parasange. En fait, ça vient d'un mot perse, parsang, qui veut dire une lieue. C'est-à-dire 400 lieues, ça fait combien? 1600 km. Donc vous avez déjà vu une armée de 1600 km, vous? Non. Hein? C'est quoi? Ça fait beaucoup, ouais, ça fait beaucoup. Donc une armée de 1600 km. Ah bon. Rohav, Savar, Sousa, Avarbaim, Parse. Et la largeur des coups de ces chevaux, 40 par Sao, c'est-à-dire 160 km de largeur. Ça fait. C'est la plus grande armée du monde. Bon. Sach Machaneu est l'ensemble de son camp. Mataim Veshishim Ribo Alafim Haser Had. 260 myriades de milliers, moins un. Ce qui veut dire donc 2,6 milliards de soldats, moins un. Moins 1, c'est tout ce qui t'embête, toi. D'abord, c'est quoi 2,6 milliards? La folie.
26.
Quoi, 26 milliards, il y a ici?
Non, 2,6.
Ah, c'est un multiple de 26, n'est-ce pas? Bon, c'est très intéressant, parce qu'un multiple de 26, c'est le nom de Dieu, toujours. Mais il manque un. C'est-à-dire, il lui manque quoi? Le nom de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Il lui manque un. C'est le nom de Dieu qui lui manque. C'est pour ça qu'il n'y a pas 26. Hein? Non, évidemment, c'est absolument impossible ce qui est écrit là. Jamais il y a eu une armée de 2,6 milliards de personnes, sans parler du fait que l'humanité à l'époque ne comptait certainement pas un chiffre pareil d'hommes. Donc c'est du bidon. Alors, nous explique. Oui. Non, alors le Maharal de Prague explique que ça ne veut pas dire qu'il y avait véritablement autant. Tous les chiffres gigantesques dont parle Guémara. Ce sont des chiffres absolus. Ça veut dire, comme dit le Maharal, Kefi Araou Iliot. C'est comme ça que ça devrait être. C'est-à-dire, si Sanhérive avait tous les moyens, eh bien c'est ça que son armée devrait compter comme homme. C'est-à-dire, virtuellement, c'est 2,6 milliards. En vérité, dit le Maharal, il y avait autant que possible. C'est autant que cela peut être. Par exemple, la Guémara nous raconte ailleurs que Moshe Rabbeinu avait la taille de 10 amot. C'est-à-dire qu'il mesurait 4,80 m. Moshe Rabbeinu était haut. 4,80 m. Il n'aurait pas pu rentrer dans la synagogue. C'est ça? Vous y croyez, vous? Absolument pas. La Guémara dit simplement que ça veut dire que. Non, le Maharal dit que ça veut dire que Moshe est digne d'être haut de 4,80 m parce que cela correspond à sa madriga, au niveau spirituel. Mais dans la réalité, dit le Maharal, Moshe était aussi grand que l'on peut l'être. Il était certainement haut de taille, mais autant que possible. Ça veut dire quoi, autant que possible? Je ne sais pas. Hein? 2,50 m, je ne sais pas. Enfin, c'est un peu difforme, ça, 2,50 m. Mais enfin, il était très haut, n'est-ce pas? Et peut-être qu'il avait 2 mètres, je ne sais rien. C'était quelqu'un de très haut. Mais ça veut dire qu'autant que possible, il était grand. De même ici pour les 2,6 milliards et les 1600 kilomètres, etc. D'accord? 1600 kilomètres, ça veut dire que c'est l'espace absolu. Par exemple, la Guémara dit ailleurs dans la Maseret Megillah que Eretz Israël a une taille de 400 parsaot sur 400 parsaot, 1600 km sur 1600 km. Vous avez qu'à essayer, vous allez voir. Vous pouvez mesurer. Si vous mesurez depuis le Nil jusqu'au golfe Persique, vous avez 1600 km. Ah ouais. Et si vous mesurez depuis la Syrie du Nord jusqu'au sud du Sinaï, vous avez également 1600 km. Alors, est-ce que c'est ça que veut dire la Guémara? Je ne suis pas sûr. En tout cas, on peut peut-être penser les choses de cette manière. En tout cas, il y a donc ici une armée qui représente l'humanité, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque un. D'ailleurs, c'est un peu l'inverse d'un autre enseignement de la Guémara. Vous savez que la Guémara dit que... il y a un verset dans Yeshayahu. « Veshaftem uritem ben tzadik la racha » Vous verrez la différence entre le juste et le méchant. « Ou ben oved Elohim lacher lo avado » Et entre celui qui a servi l'Éternel et celui qui ne l'a pas servi. Alors c'est quoi? Entre le juste et le méchant, on comprend. Le juste, il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le méchant, il ne fait pas sa volonté. Il fait le contraire. Mais c'est quoi entre celui qui a servi Dieu et celui qui ne l'a pas servi? La Guémara dit, ce n'est pas la même chose si on a étudié 100 fois la même chose ou si on l'a étudié 101 fois. Alors c'est quoi 101 fois? Ben, 100 fois, c'est ce qui est nécessaire pour assimiler ce qu'on étudie. Il faut étudier 100 fois. Une fois qu'on a étudié 100 fois, on sait. Mais mea pe'amim ve'ehad, c'est-à-dire 100 fois, mais il a également conscience qu'il fait ça pour Akadosh Baruch Hu, dont le nom est Ehad. C'est un enseignement qui m'a été transmis par le Rav Shushna. Et Rav Emmanuel Shushna, que Dieu lui envoie une bonne santé, eh bien, amen. Eh bien, parce qu'on devrait dire mea pe'amim ve'ahat, le mot pa'am en hébreu est féminin. Et donc si on dit ve'ehad, c'est qu'il s'agit de un. En plus, il s'agit donc de celui qui fait ça l'Echem Shamaim, donc c'est un Oved Elohim, tandis que l'autre il fait ça uniquement pour son plaisir intellectuel, il aime étudier. Eh bien, c'est ça dans le sens inverse, il manque un à Sanhérif. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il tombe devant Chizkiyahu, puisque Chizkiyahu justement représente le monothéisme. Alors, revenons donc à... Alors la Guémara demande une question un peu humoristique je crois. Abaye Abaye, Abaye a demandé, Haser Had, il manque un. Un quoi? Une myriade, had ribouya, ou haser had alpha, ou un millier, ou haser mea, ou une centaine, ou haser had, ou est-ce qu'il manquait seulement un pour faire 2,6 milliards? Réponse de la Guémara, teiko. C'est-à-dire, on s'en fiche pas mal. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est qu'il manque un. Comment est-ce que ça se traduit, il manque un? Bon, tant pis, on verra si on a des conditions. Ben pour qu'on réponde teiko. Il a posé ça pour qu'on réponde comme ça. D'accord? Tana. Et la Braïta nous raconte comment l'armée a avancé. Rishonim avru besehi. Sheneema vechalaf biouda shataf ve'ava. C'est-à-dire, les premiers ont traversé le fleuve à la nage, en nageant. Ainsi qu'il est dit, il passera en Judée et sera comme un fleuve. Emtsayim avru bekoma. Ceux qui sont venus après, les moyens, ont passé dans l'eau, sans nager, mais debout. Chez Nehema, Atsavar Yagia, il arrivera jusqu'au cou. C'est-à-dire que l'eau leur arrivait jusqu'au cou. Comment cela se fait-il? Parce que les chevaux ont commencé à boire le fleuve, et donc le fleuve a baissé de niveau. Aharoni, Meilu, Afar, Biraglehem, Velo, Matsu, Maim, Banahar, Lishtot. Et les troisièmes, ceux qui sont arrivés à la fin, sont passés dans le fleuve, il était déjà à sec, il n'y avait pas de quoi boire pour leurs chevaux. Achivu maim makom acher veshatu, jusqu'à ce qu'on ait amené de l'eau d'ailleurs pour les alimenter, chez Nehemar, ainsi qu'il dit Anikarti veshatiti maim, c'est moi qui ai fait amener pour boire de l'eau. N'est-ce pas? C'est la déclaration des Assyriens. Vea ketiv, mais non, la Guémara dit, mais enfin, d'où est-ce que tu as été chercher des chiffres pareils? 260 000 millions, enfin c'est pas possible. 26 000 millions, pardon. Non. 26 000 millions, c'est pas possible. Alors que le texte dit autrement. Va'aketi va'yetze malach Hashem, va'yakeb machane Ashur. Il est dit que l'ange de Dieu a frappé dans le camp des Assyriens mea ushmoni vechamisha elef, et il en a frappé 185 000. Va'yashkimu aboker, ils se levèrent le matin. Ve'ine kulam pegarimeti, mais tous étaient des cadavres. Et donc ça fait qu'il y en avait que 185 000. Pourquoi tu dis 2,6 milliards? Amar Rabbi Abaou. Halalou Rachegi Asoten. Les 185 000, c'était les chefs des armées. Mais l'armée elle-même, c'était le monde entier. Ça veut dire en fait que ce que représente Sanhérive, il représente l'humanité contre Israël. C'est ça que ça veut dire. Amar Avashé, Daikaname, on peut également le prouver, Dirtiv, parce qu'il est écrit, Bemishmanav Razon. Dieu enverra la maigreur contre ses gros. Bishmenim Deitbeu. Il s'agit donc des grosses légumes. Quoi. C'est contre Amar Ravina, Daikaname Dirtiv, on peut le prouver également d'un autre verset, puisqu'il est écrit, Vaishlach Hashem al-Ar, Vayachred, Kol Gibor Chayil, Venagid Vesar, Vemachane Ashur, Vayave Boet Elohav, Ubiotse Meav, Sham Ipilou. Bon, donc il y a des versets. Shema Mina. Bameika. Maintenant, la question qui nous intéresse, comment est-ce que l'ange a frappé les armées de la Syrie? De quoi est-ce qu'il les a frappés? D'ailleurs, il y a, dans des fouilles archéologiques, on a retrouvé une déclaration de Sanhérib sur une stèle. On a retrouvé à Nineveh, dans la ville de Ninive, la capitale de Sanhérib, on a retrouvé une stèle dans laquelle il parle de cette guerre. Et il dit là-bas, enfin, il n'explique pas tellement pourquoi est-ce qu'il a quitté la Judée et pourquoi est-ce que finalement il n'a pas réussi à vaincre Chizkiyahou. Mais il fait remarquer que Chizkiyahou lui a payé un tribut. Et on voit dans le symbole de la stèle, hein, c'est un symbole qui, quand il parle de l'armée, il y a là-bas un symbole d'un rat. Et donc les historiens pensent qu'il y a eu peut-être une épidémie qui a décimé l'armée en question. Mais en tout cas, bon, ce que dit ici la Gemara, c'est comme ça. Bameikam. Comment les a-t-il frappés? Rabbi Eliezer Omer, Bayad Hikam. Il les a frappés de sa main, c'est-à-dire la main de l'ange. Shenehemar, Vayar Israël et Hayad Hagedola, ainsi qu'il est dit, Israël vit la grande main. C'est quoi la grande main? Hayad Sheatidal Yiparam Sanhérib. Il s'agit de la main qui un jour se vengera de Sanhérib. Rabbi Yehoshua Omer, Be'etzba Hikam, tandis que Rabbi Yehoshua dit qu'il les a frappés de son doigt. Shenehemar, ainsi qu'il est dit, Vayomeru Achartumim El Paro, les magiciens dirent à Pharaon, Etzba Elohim hi, c'est le doigt de Dieu. Hi etzba she'atida li'ipara mi-Sanhérib, c'est le doigt qui un jour frappera Sanhérib. Et donc c'est quoi cette histoire du doigt? Oui. Comment? Est-ce que Dieu a un corps? Non, il n'en a pas. C'est quoi le doigt? C'est quoi la main? D'accord? Eh bien, la main c'est contre le mauvais œil. Mais la main, ça veut dire une action totale, la toute-puissance. Tandis que le doigt, c'est une action ponctuelle. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ça n'implique pas toutes les dimensions possibles. Et donc, pour aller savoir qu'est-ce qui s'est passé lors de la chute de Sanhérib. Est-ce que l'essentiel, c'est la libération d'Israël? C'est-à-dire que la Judée a été libérée. Et donc, il faut rapporter ça au premier mouvement de libération d'Israël, c'est-à-dire le passage de la mer Rouge, ou bien ce qui est essentiel, c'est que Dieu s'est vengé de ses ennemis, et dans ce cas-là, il faut se rapporter aux plaies d'Égypte. D'accord? C'est pour ça qu'on discute de savoir si c'est la main qui a fait le passage de la mer Rouge, ou bien est-ce que c'est le doigt qui a fait les plaies. N'est-ce pas? D'ailleurs, dans la Gada de Pessah, on fait le calcul, on dit qu'il y a eu 5 fois plus de plaies sur la mer qu'en Égypte. C'était 5, c'est une main entière, tandis que le doigt, c'est un seul doigt. Tu vois? Rabbi Eliezer Beno chez Rabbi Yosef Aglili Omer, Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yosef Aglili, disait Amarlo Akadosh Baruchou le Gabriel. Dieu a dit à Gabriel, Maggalcha Netusha, est-ce que ta serpe est aiguisée? C'est probablement la serpe d'or, n'est-ce pas? Et donc, il dit, est-ce que ta serpe est aiguisée? Ça veut dire qu'il a une serpe, Gabriel. Ah bon? À quoi il sert Gabriel? Gabriel, c'est un ange. N'est-ce pas? C'est un ange. C'est l'ange patriote, si vous voulez. Dans les Haggadot, à chaque fois qu'il y a un problème de patriotisme, Gabriel s'en mêle. Je crois qu'on avait vu ça déjà précédemment. Là aussi, puisqu'il s'agit de venger Israël, c'est Gabriel qui va s'en occuper. N'est-ce pas? Tandis qu'il y a d'autres anges, Michaël, Uriel, etc. Ils ont chacun leur rôle à eux, Raphaël. Tandis que Gabriel, c'est ça, il vient faire la guerre. Magalchan et Toucha, est-ce que ta serpe est aiguisée? Amar les fanins, Avrit Bono, Shelanola, il me dit, maître du monde. Netoucha, Averroedet, Mishéchet, Yeme, Bereshit, elle est déjà aiguisée depuis les 6 jours de la création. Chenehemar, Mipene Haravot, Nadadou Alahu, Mipene Cherev Netusha. Il y a un verset qui parle d'un glaive déjà prêt depuis la création du monde. Ah bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la victoire d'Israël contre Sanhérib n'est pas un accident de l'histoire. Ça fait partie d'un projet de mise en présence d'Israël face aux nations qui doit se réaliser un jour. Et donc ça fait partie de l'ordre de la création. Ça veut donc dire par exemple que nos aventures par exemple avec l'Iran, qui aujourd'hui tente la guerre de Gog et Magog, c'est un peu ça que tente l'Iran aujourd'hui, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer une guerre d'Israël comme un hasard de l'histoire. Il y a certainement une signification à cela. D'accord ? D'ailleurs... Quoi ? Comment ? C'est quoi ? J'entends rien. Celle du Liban. Évidemment qu'elle a un sens. Ça, je vous invite à faire des travaux là-dessus. Par exemple, il y avait du temps de... Pas si longtemps que ça, nous avions parmi nous le Rav Menachem Mendel Kasher. Le Rav Menachem Mendel Kasher, un des grands maîtres d'Israël, qui a écrit un livre immense en 30 volumes qui s'appelle Torah Shlema. Non, pardon, 33 volumes. Qui s'appelle le Torah Shlema. Ça n'a aucune importance, 30 ou 33 à ce niveau-là. Qui connaissait donc toute la Torah, a écrit plusieurs livres sur les guerres d'Israël pour les expliquer. Sur la guerre d'indépendance, la guerre des six jours, la guerre de Kippour. Il y a beaucoup de textes qu'il a amenés en se basant sur les Midrashim. Ça fait partie de la mitzvah de l'étude de la Torah, de comprendre les événements de l'histoire. Alors que représente la guerre du Liban ? Elle représente évidemment quelque chose de très important. D'ailleurs, je l'ai écrit dans un article. La guerre du Liban représente, ça a entraîné une mutation de l'identité d'Israël. La question morale devient une question publique. C'est-à-dire la question que l'on pose, c'est l'éthique de la guerre, comment faire la guerre à ses ennemis, comment accepter qu'une guerre soit décidée par une direction politique corrompue, etc. Toutes ces questions-là montent à la surface. Apparemment, ce n'était pas vraiment ça le problème. Donc, il y a un élément important, c'est-à-dire que nous avons avancé. D'accord. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai disait, « Oto aperek zman bishul perotaya ». C'était le moment où les fruits mûrissent. Quand est-ce que les fruits mûrissent ? Au printemps. Oui, au printemps. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Gabriel, Dieu a dit à Gabriel, Keshata yotze levashel perot, lorsque tu sors pour faire mûrir les fruits, Hizakek lahem, occupe-toi d'eux. Chez Nehemar, Mide envro ikach etrem, c'est en passant qu'il vous prendra, Kibaboker baboker yaavor, bayom uvalaila, vayarak zaava, hevin shemua, c'est-à-dire, ça sera lorsqu'il passera le matin, le jour et la nuit, qu'il fera l'horreur. Et donc, ça veut dire qu'il y a un parallèle entre l'état du monde et la politique. C'est-à-dire, c'était le moment où les fruits mûrissent, donc il faut les couper des arbres. C'est donc le moment où va mûrir la vengeance d'Israël, et donc il va lutter contre Sanhérib. Alors donc, nous avons pour l'instant trois interprétations. La première, qu'ils ont été frappés par la main, l'autre par le doigt, et le troisième par la serpe de Gabriel, c'est-à-dire par l'ordre de l'histoire. Et puis il y a une quatrième interprétation. Amar Rav Papa, non, il y a une petite note avant. Amar Rav Papa, Enu Damri Inche, c'est ce que disait Rav Papa. Rav Papa dit que c'est ça que dit l'expression proverbiale. Agavor Har, le Baal de Bavar, Ishtema. Lors, en passant, occupe-toi également de tes ennemis. Veyesh Omrim, et d'autres disent. Behotaman Nashaf Bahen Vametu. Il a soufflé dans leurs narines, et ils sont morts. Sheneemar, Vegam Nashaf Bahem Vaivashu, ainsi qu'il est dit, il souffla en eux et ils se desséchèrent. Très bizarre ça. Quand Dieu souffle dans les narines de quelqu'un, c'est pour quoi faire ? Pour lui donner la vie. Tandis que là, il leur souffle dans les narines et ça leur prend la vie. Hein ? Oui, c'est pas ça qu'il a écrit. C'est Nashaf. Il a soufflé. N'est-ce pas ? Et c'est pour la création de l'homme, on voit que c'est le contraire. Hein ? Ça veut dire que ce que les soldats de Sanhérib n'ont pas supporté, c'est leur âme. C'est-à-dire, étant donné que la guerre contre Israël est immorale et que la conscience morale vient de la Neshama, quand il y a un écart trop fort entre ce que l'on fait et ce que l'on est vraiment, eh bien on ne peut pas supporter. Et donc, c'est ça qui s'est passé. C'est il a éveillé leur conscience morale, puisqu'il leur a donné l'éveil de leur neshama, et donc ils n'ont pas pu supporter, ils en sont morts. Si, il y a de quoi mourir, justement. C'est-à-dire, quand l'écart est absolu, on meurt. C'est ça. Rabbi Yirmiya Baraba Amar, Kapaim Safak Lahem Vametu. D'après Rabbi Yirmiya Baraba, il a claqué des mains et ils sont morts. Sheneema, Vegamani, Ake Kapi El Kapi, Vanihoti Hamati. Ainsi qu'il est dit, moi aussi, je frapperai de ma paume contre ma paume, et alors mon courroux sera calmé, sera satisfait. Ça veut donc dire, c'est quoi que Akadosh Baruch Hu, il a frappé des mains? Est-ce que Dieu a des mains? Est-ce qu'il a un corps? Évidemment, non. Quand est-ce qu'on frappe des mains? Hein? Soit pour tuer un moustique, c'est vrai. Oui? Hein? Quand on est content. Mais ce n'est pas exactement comme ça. Parce qu'il y a en hébreu deux expressions différentes pour frapper des mains. Il y a l'imhot kaf, il y a l'ispok kaf. L'imhot kaf, ça veut dire frapper des mains par joie. L'ispok kaf, c'est de douleur. L'ispok. L'ispok. Safner pe kouf. C'est-à-dire, l'ispok kaf, c'est quand on est en deuil que l'on frappe des mains. Ah, là, c'est la lamentation. N'est-ce pas? Donc, il y a une souffrance du Créateur lorsque ces créatures disparaissent, et c'est cette souffrance qu'ils ont ressentie. D'accord? Et puis, il y a ici quelque chose de très beau. Rabbi Yitzhak Nafra Amar, Oznaim Gilalahem. Rabbi Yitzhak Nafra dit qu'il a ouvert leurs oreilles. Veshamou Shiram Ipi Hayot Vametu. Ils ont entendu le cantique des Hayot et sont morts. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Meromam Techa Nafatsu Goim. C'est de ta grandeur que les goyim ont été, que les nations ont été dispersées. Eh bien, Nafatsu Goim. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a un élan mystique chez les soldats de Sanhérib qui fait qu'ils n'ont pas pu supporter la violence de ce monde. Il y a souvent ça. D'ailleurs, on voit dans les armées des empires, il y a souvent un refus de la guerre. Un refus de la guerre qui devient quasiment mystique. On a pu voir ça lors de la guerre du Vietnam aux États-Unis, par exemple. D'accord? Eh bien, c'est un peu ça qui s'est passé aussi chez eux. Ils ont entendu le chant des Hayot. Ils ont dit, qu'est-ce que le monde est en vérité vraiment beau? Alors, ils ont quitté ce monde. D'accord? Alors, combien est-ce qu'il en est resté? Bon, alors, on a vu, ils sont tous morts, d'accord, mais combien est-ce qu'il en est resté? Sur les 2,6 milliards. Alors, il y a tout un débat. Rav Amar Asara. Rav dit, il en est resté 10. Il y a eu 10 Assyriens qui sont restés. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ush'ar et Yaro, Mispar Yiyu, Venar Yirtevem. Ce qui restera des arbres de sa forêt sera peu nombreux. Venar Yirtevem, un enfant pourra l'écrire. Kama Nar Yachol Yirtov, combien est-ce qu'un enfant peut écrire? 10. Ah, ça va. Donc il est resté en tout et pour tout 10. C'est-à-dire quoi 10? Vous y croyez, vous? Et c'est que 10. Non, c'est une façon de parler. Ça veut dire 10, c'est le minimum pour qu'il reste quelque chose de l'Assyrie. Les Assyriens, il en est resté 10. C'est avec 10 qu'on commence toute chose. C'est par 10 paroles que le monde a été créé, etc. Mais ça veut dire que, du point de vue de Rav, Ashur est resté entier. Hein? L'Assyrie. Oui, non, mais c'est pas la même chose. Parce que Assyrie, c'est avec un Aïn. C'est pas du tout la même chose. On ne peut pas confondre. À moins que c'était une plaisanterie. Ah oui, j'avais pas compris. Oui. C'est vrai. Non, mais David, c'est vrai qu'il en est resté qu'un. Mais David était le dixième lui-même. Ouais. Il aurait dû en rester 10. C'est vrai. C'est une très bonne question, je n'ai pas de réponse. Oui. Non, ça va? Ou Shmuel Amar, Tisha. Tandis que Shmuel, lui, dit qu'il en est resté que 9. Chez Nehemar, Venish Arbo Olelot, il en restera des grappillons. Kenokef Zait, comme on laisse sur l'olivier. Shnaim Shelosha, Gargirim, Berosh Amir, 2-3 grains en haut de la crête, Arba, Hamisha, Bisaifea, et 4 et 5 dans les branchages. C'est-à-dire, finalement, 4 et 5, ben, ça fait 9. C'est-à-dire que, depuis cette histoire, Ashur n'a plus d'importance dans l'histoire, il en reste que 9. Rabbi Yoshua ben Levi Omer, Arba Asar. Tandis que Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il dit qu'il y en a 14. Génémar, ainsi qu'il est dit, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire 2 et 3, ça fait 5. Et encore 4 et 5, ça fait en tout 14. Donc il y en avait 14. C'est quoi 14? C'est la gématria du mot Yad. Yad. C'est-à-dire, il en est resté la puissance, la capacité de faire quelque chose, l'action. Rabbi Yochanan Amar, comment? David, oui, bien sûr. Et Rabbi Yochanan Amar, Hamisha, Rabbi Yochanan disait, il en est resté 5. Qui étaient les 5? Sanhedrin lui-même, Ushne Banab et ses 2 fils. Comment est-ce qu'on sait qu'il avait 2 fils? Puisque ce sont des deux fils qui l'ont assassiné. Nebuchadnezzar, Unvuzaradan. Ainsi que Nabucodonosor et Nebuzaradan. Alors, c'est quoi cette histoire? À l'époque. Non. Mais ils font partie des armées. Parce qu'à l'époque, les Assyriens dominaient la Babylonie, et donc, à l'époque, Babel n'était pas un royaume indépendant, ça faisait partie des armées d'Ashur. Mais juste après cette histoire, Ashur a été renversé par les Babyloniens, et c'est les Babyloniens qui ont finalement fait la guerre à la Judée. Ils étaient encore jeunes. Ouais, ils étaient encore jeunes. Alors d'où est-ce qu'on sait ça? Nebuzaradan Gemara. Nebuzaradan, on le sait par tradition. Nebuzaradan, c'était le chef de l'armée de Nebuchadnezzar. Quant à Nebuchadnezzar lui-même, dirtiv, urve dirvea adame le bar elahin. Lors de l'histoire de la fournaise de Hanania, Michel et Azaria, il dit le quatrième, il voit dans la fournaise de Hanania, Michel et Azaria, il voit le quatrième, c'était un ange. Il dit, il ressemble à un fils des dieux. Ça veut donc dire qu'il avait l'habitude de voir un ange. Quand est-ce qu'il a vu un ange dans sa vie? Eh bien, lorsqu'il était soldat chez Sanhérive et qu'il a vu l'ange frapper. Vilav de Hazier, Mina Avayada, s'il n'avait pas vu un ange, d'où est-ce qu'il le savait? Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que Nebuchadnezzar n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'il voit des anges. C'est-à-dire quoi? Il voit un ange. Pas qu'il voit flap flap, parce que les anges n'ont pas de forme humaine. Mais ça veut dire qu'il a perçu la dimension divine de ce qui se passait. Et donc, Nebuchadnezzar, contrairement à Sanhérive, avait une conception de l'histoire dans laquelle il introduisait le Créateur. Ce qui explique pourquoi est-ce que lui a pu vaincre là où Sanhérive n'a pas pu vaincre. C'est-à-dire que Sanhérive, par rapport à Chizkiyah, c'est la force brutale par rapport à la puissance de l'esprit, ça c'est Chizkiyah. Tandis que Nebuchadnezzar, lui, il a des mérites. Et c'est les mérites de Nebuchadnezzar qui lui ont permis de détruire le temple, comme on le verra par la suite.
C'est-à-dire que c'est dangereux pour Israël, les gens qui peuvent entendre
Dieu? Évidemment. Oui, évidemment que c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est dangereux. C'est-à-dire quand un arabe dit Allahu Akbar, c'est très dangereux pour nous. Non, c'est vrai? Dans tous les sens. Oui, bien sûr. Oui. Sanhérive Ushnebanav, quant à Sanhérive lui-même et ses 2 enfants, dirtiv, car il est dit en toutes lettres, Vayehi ou Mishtahave bet Nisroch Elohav. Ce fut lorsqu'il se prosternait dans la maison de Nisroch, son dieu, Vehadar Melech Veshar Etzer Banav, Hiku Baherev, que Adra Melech et Shar Etzer, ses enfants, l'ont frappé de leur épée. Donc, ça, c'est la chute de Sanhérive. À partir de là, commence une histoire à dormir debout, qu'on va vous lire assez rapidement. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou disait, « Il m'allait mikra katouv i efchar leomro. Si le verset n'était pas écrit, on n'aurait pas pu le dire. » De quoi s'agit-il? Dirent-il, il y a un verset. « Bayom ahu, en ce jour-là, yigala Hashem, Dieu rasera. Beta'ar asechira. » Avec un rasoir loué, Be'evre'ana, au-delà du fleuve, Be'melech Ashur, le roi d'Assyrie. C'est-à-dire, Dieu va raser le roi d'Assyrie. Qu'est-ce qu'il va raser? Et Tarosh, la tête, Us'ar et Araglaim, ainsi que les poils de ses pieds, Ve'gam et Azakan, Tispe, et la barbe, elle aussi, sera emportée. C'est un verset de dérision. C'est-à-dire, on se moque du roi d'Assyrie, on va lui raser la barbe et les poils des pieds. Bon, c'est très joli. Alors, maintenant, c'est quoi cette histoire? Ben, la Guémara va nous raconter une histoire véritablement à dormir debout, mais vous allez tout de suite comprendre que c'est une histoire très importante. Ata kucha berichu, Dieu est apparu. Ve'id melek et gabra saba, et s'est fait passer pour un vieillard. C'est-à-dire, Dieu rencontre Sanhérib après la défaite. Il lui dit bonjour. Il se fait passer pour un vieil homme. Ça veut dire quoi qu'il se fait passer pour un vieil homme? Ça veut dire que l'idée de la divinité pour Sanhérib, c'est une vieillerie. Ça appartient à un monde dépassé. Et pourtant, il le rencontre. C'est-à-dire, après la défaite, souvent, l'homme, disons, orgueilleux, un moment de réflexion sur les valeurs de ses ancêtres, la religion de ses pères. Alors il va rencontrer Dieu sous forme d'un vieillard. Amarle, et Dieu lui dit, Ki azalt legabe malche mizrach umarav daititinu levnayu ktaltinu. Lorsque tu vas rencontrer les rois d'Orient et d'Occident, dont tu as tué les enfants, donc tu as amené leurs enfants et tu les as fait tuer, Mai amart lehu, qu'est-ce que tu vas leur dire? C'est-à-dire, après un grand conflit mondial, il y a un éveil, une sorte de révolte dans la bourgeoisie contre la guerre. Alors, qu'est-ce que tu vas dire maintenant qu'il y a du pacifisme dans le monde? À cause de toi, les fils des rois sont morts. Amarle, haou gavra, baou partan ameadi. Il dit, c'est vrai, j'ai peur de ça. Amarle, echinaavi, alors qu'allons-nous faire? Que puis-je faire? Amarle, il lui a dit, Zil, va. Ah, y a pas, vous n'avez pas la deuxième page. Nous allons prendre la deuxième page. La deuxième page, vous la rendez après le cours, mais la première page, vous pouvez la garder. Servez-vous. Zil Veshane Nafshar, va, change ton aspect. Ah, ça veut dire quoi? Eh bien, la classe politique, après la guerre mondiale, va essayer de changer d'aspect. C'est ça? L'échec du dirigeant politique dans la guerre, va l'entraîner à essayer d'avoir un nouveau visage. C'est rien. Enfin, il va essayer de changer. Bemaï Ishne. Alors, comment faire pour me changer? Amarle, alors Dieu, comme ça, qui se fait toujours passer pour le vieillard, lui dit, Zilaitele maspera vigazir. Amène-moi des ciseaux, je vais te couper les cheveux, on ne te reconnaîtra plus. Parce que les Assyriens avaient des longs cheveux, une grande barbe, vous savez. On dit, on va te couper les cheveux, tu vas voir, tu n'auras plus l'air de ce que tu es. Ça veut dire quoi, cette histoire? C'est-à-dire que les cheveux sont comparés ici à la violence. Et donc, il faut supprimer la violence. Comment est-ce qu'on le fait? Ben, avec des ciseaux. C'est quoi des ciseaux? Ben, des ciseaux, c'est une arme. Des ciseaux, ce sont deux épées, mais qui, au lieu de servir à tuer, servent à pacifier. C'est-à-dire qu'on va établir une force pacifique, une force armée pacifique. Ça s'appelle, comment ça? Les casques bleus. D'accord? Vexaïrana, moi je vais m'occuper de te couper les cheveux. Elle dit, mais haïté, d'où est-ce que je vais en amener? Comment je vais, maintenant, avoir des soldats pour mon... Alors que tout le monde a disparu. Amarle, en haut, le haoubeta. Elle dit, rentre dans cette maison. C'est-à-dire, on va fonder une institution. Vexaïté, et moi je t'amènerai. C'est-à-dire, on va dans la même institution. Dans cette institution, on va trouver des ciseaux. C'est-à-dire, il y aura une organisation qui, elle, va s'occuper d'imposer la paix dans le monde. Azal, Ashkirhino, il est allé, il a trouvé là-bas des ciseaux. Atou Malaché Acharet. Et les anges du service sont venus. C'est quoi les anges du service? Eh bien, ce sont les représentants des nations. C'est-à-dire, toutes les nations arrivent dans l'institution en question. Et lui sont apparus sous forme d'hommes. C'est-à-dire les hommes, il y a les anges du service sont dans la maison où il y a les ciseaux. Voyez. Alors ils ont la forme d'hommes. Ve'avu katachane kashiata. Ils étaient en train de moudre des noyaux de dattes. D'accord ? Les anges moulent des... Enfin, ils s'occupent de faire moudre, quoi. Des noyaux de dattes. Voilà, bon. Hein ? Des noyaux de dattes. Faut être cinglé, non ? Je sais pas. Des noyaux de dattes. D'accord ? À quoi ça sert un noyau de dattes ? À planter des dattiers, n'est-ce pas ? Vous avez déjà vu des dattiers, vous, dans la vie ? Des palmiers ? Oui, vous avez déjà vu, hein ? Vous avez vu qu'ils sont très égoïstes. C'est-à-dire, on ne peut pas planter deux palmiers dans la... Oui, l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire, les palmiers sont la source de, si vous voulez, de la séparation, des conflits d'intérêts. Alors, qu'est-ce que font les anges en question pour amener la paix ? Eh bien, ils vont moudre les conflits d'intérêts. C'est pas ? On a pensé à un moment que la paix universelle viendrait quand il n'y aurait plus de conflits d'intérêts entre les peuples. Alors, ils sont en train de moudre ça. Amarleo, à vous les maspera. Alors, Sanhérib dit, vous ne pouvez pas me prêter vos ciseaux, là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas envoyer votre force de paix. Amoule, techon khadriva de kashiata vinitena. Ils ont dit, tu as qu'à moudre un peu avec nous, on te donnera. C'est-à-dire, participe à l'effort. Tu ne peux pas rester comme ça. Tahan khadriva de kashiata. Alors, il a moulu une quantité de noyaux. Et à Oulé Masparta, ils lui ont donné les ciseaux. Adéata, donc il sort donc de la maison, il rencontre Dieu sous forme de vieillard qui attend qu'il lui amène les ciseaux. Irchar, le temps que ça a pris tout ça, hein, la nuit est tombée. C'est-à-dire quoi, la nuit est tombée ? La barbarie est revenue dans le monde. C'est-à-dire ça prend du temps tout ça, entre-temps la violence continue. Amarlé, Zil Aïtenoura. Alors on dit, amène du feu. C'est-à-dire, quand la barbarie revient, eh bien, les armes aussi reviennent. Il dit, amène du feu pour que je voie. Je ne vais pas te couper les cheveux dans l'obscurité. Azal va être Noura, il amène donc le feu. Bah, dès les canafarlés, lorsqu'il était en train de souffler le feu, Itle be Noura bedikne, les flammes se sont emparées de la barbe de Sanhérib. C'est quoi la barbe ? C'est la sagesse. C'est-à-dire, vient un moment où, quand la violence revient, la sagesse des nations est perdue. Azal Gaziel et Reche Vidikne. Alors il lui a coupé les cheveux et la barbe. Amu Amr Ainu Dirtiv. Et on a dit que c'est ça qu'il est dit. Vega Metazakan Tispe. Et tu brûleras également la barbe. Amar Rafapa Ainu Damrin Che. Rafapa dit, c'est ce que dit l'expression. Grirte le Amara. Entraîne le goy. Shapir le. Itlele. Si tu lui as fait. Si tu as trouvé ses grâces à ses yeux. Itlele Noura Bidikne. Brûle lui sa barbe. Vela savat chouchamine, tu ne cesseras pas de rire à cause de lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vient un moment où il y a le rire dans le monde. Quand on en aura fini avec la source de la violence. La source de la violence, eh bien, c'est l'impérialiste Sanhérib. Quand on en aura fini avec lui, ce sera le moment de rire. Ashkar dapa mitevuta des noirs. Et alors il a été trouvé une poutre de l'arche de Noé. Vous savez que Ashur, la région de Ninive, c'est pas loin de l'Arménie. L'Arménie, c'est là-bas qu'il y a le mont Ararat, où il y a l'arche de Noé. Alors la Guémara dit, il a été trouvé une poutre de l'arche de Noé. Où est-ce que la Guémara cherche un truc pareil ? C'est très simple. On dit qu'il était en train de se prosterner chez Nisroch. Nisroch, ça veut dire une poutre. Et donc, il a trouvé une poutre de l'arche de Noé. Amar. Haïnou et la Rabba des Chazvelenar Mitoufana. Il dit, voilà, c'est ça le grand Dieu qui a sauvé Noah du déluge. C'est-à-dire, qui est-ce qui a sauvé Noah du déluge ? L'arche. Donc l'arche est un dieu, et donc les poutres de l'arche sont un dieu. Et donc il se prosterne devant un morceau de bois. Vous connaissez ça, vous ? Des gens qui se prosternent devant un morceau de bois ? Il y a une religion comme ça, non ? Hein ? Dans les églises, on se prosterne devant une poutre de bois. Hein? D'accord ? C'est-à-dire que après l'échec de la guerre, il y a un moment de désespoir, il y a un retour de la religion. Mais ce retour de la religion a une forme un peu, disons, ridicule. Amar izi laou gavra ou matzlar makrav letren benoï kamar. Il a dit à la poutre en question que s'il réussissait, il lui sacrifierait ses deux enfants. C'est-à-dire qu'au nom de la religion revient la violence. Shamo Benohiv Katlou, les enfants ont entendu ça et ils ont dit No more war. Ils l'ont tué. Aïnou Dirtiv, et c'est pour ça qu'il est dit Vayou Mishtachave Bet Nisroch Eloav, il se prosternait dans la maison de la poutre son Dieu, Veadra Melech Jareter Banaviku Bacherev, et Adra Melech Jareter, ses enfants, l'ont frappé de leur glaive. Oui ? Dernière question, parce que c'est. Oui. Venir avant, que quoi ? Comment quoi ? J'ai rien compris. Comment est-ce qu'Atali a fait pour tuer tout le monde ? Ben, elle avait le pouvoir en dans ses mains, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Voilà.